Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1 pour réveil à vous après ce long et j'espère agréable week-end. Peut-être en avez-vous profité pour vous mettre au vert.
Dans la maison de vacances, il y a un jardin fleuri, un saule pleureur qui danse. Au milieu des orties.
Cette maison de vacances qui a tant fait rêver les Français citadins lors du premier confinement, la demande de résidence secondaire a atteint une hausse de 30% entre 2019 et 2021.
Oui, mais voilà, deux ans plus tard, il semblerait bien que cette envie d'un deuxième pied-à-terre soit en train de retomber.
Oui, d'après le courtier en crédit immobilier Préto, les demandes sont en baisse depuis le début de l'année. Plusieurs raisons à cela. Les taux de crédit immobilier ont augmenté, il est plus difficile d'obtenir des prêts et puis, nous pouvons à nouveau voyager partout à l'étranger. Vous entendrez le président de Préto, Pierre Chapon, à 6h moins le quart. Dans l'actualité ce matin, Julien.
Le chaos, à nouveau, aux abords d'une enceinte de football. De violents incidents ont éclaté hier soir en dehors du stade Geoffroy Guichard après la relégation en Ligue 2 de l'AS Saint-Etienne. Les Verts battus hier soir au tir au but par la JOCR en match de barrage retour. On y revient dans un instant dans le journal d'Alban Le Prince.
Du sport du vrai au programme ce matin sur Europe 1.
Radio officielle de Roland-Garros où l'on entre aujourd'hui dans la deuxième semaine avec en ligne de mire le match le plus attendu. Le quart de finale demain entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, l'Espagnol qui a dû batailler 4 heures hier soir pour venir à bout du Canadien Félix Auger-Aliassime.
Une affiche de rêve et des combats disputés, il y a matière à discuter.
Et c'est ce qu'on va faire avec un homme qui maîtrise parfaitement son sujet puisqu'il couvre cette année, tenez-vous bien, son 38e Roland-Garros consécutif. C'est le journaliste spécialiste du tennis Bruno Cuaz avec qui on va débriefer la semaine écoulée et se projeter sur celle qui s'ouvre. Rendez-vous à 6h10. Et puis, votre partition pour conclure.
On terminera l'émission avec un groupe iconique des années 90. La partition de The Cranberries avec sa chanteuse anticonformiste à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
On n'oublie pas la petite veste ce matin.
Aïe aïe aïe, il fait frais. Je ne sais pas si vous êtes déjà sortis, mais en tout cas ce matin, c'est vrai que les températures sont bien basses, bien en dessous des moyennes de saison. Alors ce matin, il va falloir compter 4 à 10 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 17 au bord de la Méditerranée. Et puis cet après-midi, on aura 15 à Cherbourg, 19 à Paris, 23 à Lyon et jusqu'à 26 degrés. En Corse, alors dans le ciel, c'est variable, comme ces derniers jours. On va avoir un temps aujourd'hui qui va nettement ressembler à celui d'hier, c'est-à-dire qu'on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec entre les Hauts-de-France et l'Alsace pas mal de passages nuageux et même des petites ondées à prévoir sur le nord de la France. De la Normandie à la région parisienne, on aura une matinée ensoleillée, puis les nuages arrivent cet après-midi. Sur les Pyrénées, après le soleil matinal, là c'est l'inverse, après le soleil matinal, les orages arrivent cet après-midi. Et partout ailleurs, ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis surtout dans le sud, vous avez eu un beau week-end, ça va se couvrir un peu, notamment sur le golfe du Lion.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et elle a eu une fiasco totale dans les stades ce week-end. Débordement samedi en marge de la finale de la Ligue des Champions. Et rebelote hier pour le match de barrage Saint-Etienne-Auxerre. Fumigène, envahissement de terrain, blessé. Récit de cette soirée chaotique dans un instant. Faites quelque chose. Joe Biden interpellé par les habitants traumatisés d'Uvalde au Texas. 5 jours après le massacre perpétré dans une école. 21 morts, dont 19 enfants. Et puis c'est l'un des défis du moment. Attirer les saisonniers à un peu plus d'un mois des grandes vacances. Les bras manquent, mais aussi les logements, eh bien nous irons à La Baule qui a peut-être trouvé une solution.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce lundi 30 mai vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Week-end chaotique pour le monde du football après les débordements du Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Hier, c'est au coup de sifflet final du match de barrage Saint-Etienne-Auxerre que la situation a totalement dégénéré. Auxerre repasse pour la première fois depuis 10 ans en Ligue 1. Les Verts relégués en Ligue 2 devant des supporters stéphanois en colère devenus incontrôlables. Le récit de Cyril de la Morainerie.
Oui, après le tir de l'Auxerrois Birama Touré, synonyme de descente en Ligue 2 pour Saint-Etienne, le terrain est envahi par des centaines de supporters en colère. Ces fans désabusés lancent des fumigènes et des pétards en tribune. Des sièges brûlent. Les CRS utilisent des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser les intrus. En tribune, des familles se réfugient dans les loges. C'est le chaos.
C'est pathétique, cette violence. On est déçus de descendre en Ligue 2, mais Mais c'est triste de voir des choses comme ça. Surtout qu'il y a des enfants là, qu'on a soignés, qui avaient pris des lacrymos et machin.
Les joueurs sont mis en sécurité à l'intérieur de l'enceinte. Malgré la montée, l'ambiance n'est pas à la fête dans le vestiaire d'Auxerre, raconte leur entraîneur Jean-Marc Furlan.
J'ai flippé parce que j'ai pris je sais pas combien de bombes lacrymogènes, donc je faisais que pleurer.
La fin du match, on est tous rentrés rapidement. On avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire, donc on a compté tout le monde. C'est un peu triste, oui.
À l'extérieur du stade Geoffroy Guichard, des individus continuent de provoquer les forces de l'ordre. Et pour ne rien arranger, on ne verra aucun dirigeant de Saint-Étienne. La soirée se termine dans la plus grande confusion avec un communiqué des Verts annonçant la prochaine vente du club.
Cyril de la Morinerie et le bilan fait état de 14 blessés légers côté forces de l'ordre, 17 côté supporters. Deux joueurs auxerrois ont également été touchés.
Autre fiasco autour du ballon rond, celui de samedi soir au Stade de France. Le préfet de police de Paris saisit la justice.
Pour fraude massive aux faux billets, cela aurait pu, selon Didier Lallemand, avoir des conséquences très graves pour la sécurité des spectateurs. Des milliers de supporters, justement, seraient arrivés au stade munis de billets falsifiés. Le ministère des Sports convoque ce matin à 11h l'ensemble des parties prenantes pour en tirer toutes les leçons et identifier les dysfonctionnements.
Il est 5h passé de 3 minutes sur Europe 1 et comme beaucoup de Français, vous en faites peut-être parti. Emmanuel Macron a fait le pont de l'Ascension ce week-end au fort de Brégançon. Ce lundi, c'est le retour au travail et retour au travail direction Bruxelles.
Il y reste aujourd'hui et demain un Conseil européen extraordinaire prévu depuis longtemps. Les 27 l'avaient tous noté dans leur agenda à Versailles. En mars, j'axerai ces prochaines 48 heures. Il ne sera question que de l'Ukraine.
Oui, sur la table des négociations, le soutien économique à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Kiev voit son PIB s'effondrer. 30 à 50% de baisse, ce sont les estimations pour cette année. Conséquence, l'Union européenne, qui a déjà déboursé 4 milliards d'euros d'aide, réfléchit à remettre au pot. Un nouveau prêt de 9 milliards d'euros va être discuté. La sécurité alimentaire doit aussi être débattue. Comment permettre l'exportation des céréales et des oléagineux ukrainiens pour éviter que les récoltes ne pourrissent? Il est notamment question de mettre en place un corridor de solidarité qui passerait par la Roumanie et la Pologne. Les 27 doivent aussi se mettre d'accord pour se coordonner dans les achats d'armement, alors qu'un certain nombre de pays se sont défaits de leur stock pour fournir l'armée ukrainienne. Enfin, il s'agit une fois de plus de trouver des solutions pour réduire la dépendance énergétique de l'Union à l'égard de la Russie, pour financer les investissements dans les énergies renouvelables et dans la diversification des approvisionnements. Une enveloppe de 200 milliards d'euros pourrait être débloquée, 200 milliards issus du plan de relance européen, à l'origine conçue pour l'après-Covid-19, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ne sera-t-elle pas abordée, renvoyée au prochain conseil prévu dans 3 semaines.
Merci pour ces précisions. Jacques Serret en Ukraine, justement, pour la première fois depuis le début de la guerre. Volodymyr Zelensky s'est rendu dans l'est du pays, gilet pare-balles sur le dos, entouré de soldats. Le président ukrainien a parcouru les ruines de Kharkiv où plus de 2200 maisons ont été détruites.
On prend à présent la direction d'Uvalde, au Texas. Joe Biden et son épouse Jill se sont rendus hier soir sur les lieux de la tuerie où 19 enfants et 2 enseignants ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi dernier.
Le couple présidentiel a retrouvé les familles des victimes avec qui il s'est entretenu pendant plusieurs heures dans cette ville toujours traumatisée par le massacre qu'elle a subi. Le reportage de notre correspondante Aviva Fried.
Des applaudissements qui saluent l'arrivée de Joe Biden et de son épouse à Uvalde. Le président a défilé lentement devant les portraits des personnes tuées mardi. Un geste fort pour John Graham. Ce Texan typique, le Stetson vissé sur la tête, estime que le pays avait besoin de ça.
On a besoin que quelqu'un nous console. On a besoin de mettre la politique de côté et qu'on nous dise « je vous entends, je compatis ».
À la sortie de l'église où Joe Biden a assisté à une messe, la foule l'interpelle. Faites quelque chose, crie la foule. « Nous le ferons », répond Biden. Mais pour Leslie, cela ne changera rien.
Je pense que maintenant, avec toutes les familles, avec le chaos, on en parle. Mais après, on n'y pensera plus, comme toujours. Ça me fait mal au cœur.
Après avoir vu les familles des victimes et les premiers secours, Joe Biden repart sans faire de déclaration ou d'annonce de réforme. Mais Anthony Sandoval, lui, veut y croire pour l'avenir de ses 5 fils.
Je dois garder espoir qu'il y aura du changement. Sinon, ça deviendra une nouvelle réalité et ça me fait peur.
Un optimisme qui risque d'être déçu, car sans l'accord du Congrès et des Républicains, Joe Biden n'a aucune chance de faire passer la moindre réforme. À Uvalde, Aviva Fried, Europe 1.
Voilà, on vient de l'entendre, les habitants encore choqués, mais aussi en colère, notamment en raison de l'arrivée jugée trop tardive de la police sur place le jour du drame. Un sujet dont se saisit le ministère de la Justice américain.
On revient en France avec des restaurateurs et des hôteliers qui ne sont pas aidés dans leur quête de trouver des saisonniers pour cet été. La main-d'œuvre manque et une fois trouvée, l'autre mission quasi impossible, la loger.
Oui, hein, les appartements et maisons en bord de mer sont pris d'assaut par les touristes. Alors, difficile d'en trouver pour les travailleurs. Et pourtant, il faut bien les loger. La mairie de La Baule tente de trouver des solutions. Elle vient de lancer un appel aux habitants. Objectif, qu'ils mettent une chambre ou un studio à disposition en échange d'un loyer limité. Le reportage de Charles Guyard.
Il y a une partie cuisine et puis le côté salle de bain, toilette, voilà.
Ce studio tout équipé, il se trouve à l'étage de la maison de Maryse, une octogénaire de Guérande qui l'a aménagé pour ses enfants quand ceux-ci lui rendent visite. Mais dès ce lundi, c'est un jeune couple employé dans la restauration qui va y poser ses valises, un soulagement.
Ceux qui viennent ici, par exemple, ils avaient commencé à faire une demande en décembre et ils relançaient toujours en demandant est-ce qu'ils auraient de la place.
Le Graal, ce couple l'a trouvé grâce à Presqu'île Habitat Jeune qui a lancé un appel aux locaux pour loger les travailleurs âgés de 16 à 30 ans. Problème, alors que la saison va bientôt démarrer, les mètres carrés disponibles chez l'habitant sont encore trop rares, selon Naïs Tillot. Elle est animatrice de l'association.
Sur la commune de La Baule, on est à 15 jeunes sur liste d'attente qui ont déjà leur contrat. J'ai des hôtels, j'ai des restaurants, j'ai des commerçants, ouais, il y a de tous les domaines. Là, on est sur une bonne vingtaine de besoins de logement. Et sauf qu'en hébergeur, j'ai dû en avoir 4 pour l'instant.
Et pourtant, sans logement à loyer accessible, ici limité à 250 euros par mois, les saisonniers pourraient finir par bout décomplètement les stations balnéaires, menaçant toute l'économie touristique locale. Presqu'île de Guérande, Charles Guyard, Europe 1.
On termine avec un mot de Roland Garros dont Europe 1 la radio officielle.
Oui, on l'attendait. Il aura lieu le duel Rafael Nadal-Novak Djokovic. Ce sera pour les quarts de finale. Demain, l'autre espagnol, Carlos Alcaraz, rencontrera de son côté Alexander Zverev.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup, Alban.
Il est 5h09 et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Strasbourg et mon pari gagnant sera le 602. Salvatore, né et entraîné en Allemagne, il n'a pas raté ses débuts en compétition le 28 avril sur l'hippodrome du Mans en s'imposant de bout en bout à la manière des forts. Et le style de cette victoire me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à conserver son invincibilité, d'autant plus que le profil de cette piste strasbourgeoise ne pourra que l'avantager. Alors notez bien, pour cet après-midi à Strasbourg, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 2, Salvatore.
Le numéro 2, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure maintenant pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Excellent début de matinée, c'est le coup d'œil sur la presse du matin et les trois histoires choisies pour vous. Le pressing, bien sûr, avec aussi Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
On commence avec les unes de vos journaux qui, pour la plupart, reviennent sur les incidents de samedi soir aux abords du Stade de France. Autopsie d'un fiasco, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Un fiasco policier, précise et juge Libération. Coup d'envoi retardé, spectateurs bousculés, trafic de faux billets, grève du RER, etc. Polémique et question sur un soir de chaos, ajoute Le Figaro, alors que le ministre de l'Intérieur met en cause la responsabilité des supporters britanniques. Le quotidien rappelle que sur les 39 gardés à vue, un ou deux seulement concernent des sujets de Sa Majesté la Reine. Omblin, on commence avec vous.
Eh bien, on prend la direction de Londres, tiens, on part en Angleterre, dans Aujourd'hui en France, où ce week-end a eu lieu la première du spectacle À Bas Voyage. Temps d'attente, voilà Agnetha, Anni-Frid, Benny et Björn, les quatre chanteurs d'ABBA qui sur scène n'ont pas pris une seule ride. Et pour cause, ce sont les avatars qui se dandinent en combinaison pâte d'eff à paillettes, les avatars des quatre ABBA. C'est autrement plus disco que l'avatar de Jean-Luc Mélenchon, vous en conviendrez. Des hologrammes plus vrais que nature, dit l'article, ils ressemblent à s'y méprendre aux Suédois exactement comme on les a laissés il y a donc 40 ans. Ces doubles virtuels blaguent, se tapent dans le dos, s'amusent sur scène à dire qu'ils sont plutôt bien conservés. Oui, ils manquent pas d'humour en rappelant par exemple qu'en 1974, à l'Eurovision, l'Angleterre leur avait donné 0 point pour la Suède. Et pourtant, leur ABBA voyage se déroule qu'en Angleterre, en tout cas pour le moment. Les chanteurs d'ABBA ont donc retrouvé l'énergie de leurs 30 ans, sauf qu'ils en ont 70 aujourd'hui. Peut-être un petit peu physiquement absent sur scène, hein, vous l'avez compris, c'est en revanche bel et bien leur voix actuelle qu'on entend et accompagnée par de vrais musiciens et de vrais choristes applaudis par des vrais spectateurs. 3000 personnes massées dans la salle éphémère construite spécialement pour l'occasion dans la Queen Elizabeth Olympic Park. C'est à l'est de Londres. Plus d'1h30 de spectacle. Alors on parle bien de spectacle, hein, de show, on parle pas de concert à proprement parler, et des hologrammes qui peuvent donc se permettre d'assurer 7 shows par semaine jusqu'en mai 2023. Donc vous allez avoir le temps, 21 chansons, 21 tubes qui renvoient chaque personne dans la salle, quel que soit son âge, dans les années 70 et 80. C'est ça qui est bien avec ABBA. On peut écouter ABBA quand on a 10 ans et quand on en a 70 ou plus ou moins. L'ambiance va crescendo et le public est conquis. Beaucoup ont la sensation de retrouver les idoles de leur jeunesse. Les avatars du groupe ABBA sur scène à Londres depuis ce week-end. C'est dans Aujourd'hui en France et vous l'avez compris, vous avez le temps de vous y rendre. Il y a et plein de dates.
Et eux, ils étaient depuis leur canapé alors.
Voilà.
Non, ils n'ont pas bougé.
C'est beau la technologie. Hein.
Je suis pas sûr. Bah oui.
Il paraît que c'est franchement, d'après les articles, puisqu'il y en a plusieurs qui font beaucoup d'éloges sur ce show, c'est absolument bluffant. Spectaculaire, oui. Et grandiose. Ouais.
Merci Omblin.
Avec plaisir.
Martin, à vous.
Oui, les fans de sport étaient gâtés ce week-end, hein, si on met de côté les événements en tribune, bien sûr. Finale de la Ligue des Champions, finale de la Coupe d'Europe de rugby, Roland-Garros, mais aussi le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Peut-être la course la plus mythique du sport automobile, hein, disputée en pleine ville, sur le rocher. C'est le Mexicain Sergio Pérez sur Ferrari qui s'est imposé.
Non, sur Red Bull.
Sur Red Bull, oui, pardon, excusez-moi. Je pense que vous étiez devant votre télé.
Julien. Ah ouais, vous la faites pas.
C'était un piège.
Bravo. Il suit.
Et j'espère que vous en avez profité, Julien, parce que c'est peut-être la dernière édition. Le contrat entre la FIA, la Fédération Internationale Automobile, et l'Automobile Club de Monaco arrive à échéance cette année, et si les négociations ont été engagées pour une prolongation, on est encore très loin d'un accord, ce qui serait un cataclysme. Le Grand Prix de Monaco existe depuis 1929, presque 100 ans, et c'est une épreuve de ce qu'on appelle la triple couronne, les trois plus grandes courses du sport auto, avec les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis.
Alors pardon, parce que moi je suis moins calé, mais je comprends pas pourquoi supprimer cette course alors.
Eh bien, peut-être parce que le rocher est un peu passé de mode. Ah, il est aujourd'hui concurrencé par d'autres circuits urbains comme lui, mais plus rapides, plus spectaculaires. On pense notamment au Grand Prix d'Azerbaïdjan, à Bakou, ou à celui d'Arabie Saoudite, tout nouveau cette année. Aujourd'hui, la F1 mise beaucoup sur ses nouveaux marchés du Moyen-Orient et de l'Asie.
Et les démocraties aussi.
Un peu moins sur le vieux continent. Et puis, dans cette nouvelle géopolitique du bolide, il ne faut pas oublier les États-Unis aussi. Hein. Depuis le rachat de la Formule 1 par le groupe américain Liberty Media, le promoteur fait tout pour séduire le public américain. Il y aura d'ailleurs, dès l'année prochaine, une troisième course aux États-Unis, le Grand Prix de Las Vegas, un Grand Prix urbain au milieu des casinos de Sin City. Tiens, ça vous rappelle quelque chose. Enfin, un dernier tort de Monaco, le scénario de son Grand Prix, avec l'évolution des voitures toujours plus grosses et le circuit sinueux en pleine ville, il devient de plus en plus difficile, voire impossible de doubler. L'an dernier, d'ailleurs, il n'y avait eu aucun déplacement lors de la course, hein, une première depuis 2017. Alors, il va falloir du changement à Monaco. Hein. Tous les acteurs sont d'accord, du Prince Albert à Charles Leclerc, le pilote du cru. Mais tout ça devrait surtout se régler autour d'un gros chèque, un business first. Il se murmure que la F1 voudrait 20 millions de dollars pour re-signer avec Monaco, contre 5 actuellement. Le Grand Prix de Monaco 2022 est peut-être le dernier. C'est à lire sur le site du Huffington Post.
Merci Martin. J'ai choisi pour ma part de vous emmener ce matin dans l'espace. Direction une étoile au nom interminable. 2 masses 192-81982-264012-3. Vous ne la connaissez pas ?
Non,
votre chronique est terminée. Par contre,
c'est plus le temps.
Ce qui est interminable également, c'est le temps qu'il faut pour rejoindre cet astre depuis la Terre. 1801 années-lumière. Or, comme rien ne va plus vite que la lumière, théoriquement, le voyage va durer au minimum 18 siècles, donc vous êtes autorisé à enlever vos chaussures. Vous en aurez donc déduit, si vous apercevez cette étoile dans le ciel, que sa lumière, celle qui atteint votre rétine, a été émise en l'an 221 de notre ère, sous le règne de l'obscur empereur romain Héliogabale. Ça, c'était pour frimer en soirée. Plus sérieusement, ça veut dire en théorie que tout ce qui est émis depuis cette étoile a donc mis plus de 1800 ans minimum pour effectuer le trajet, même un éventuel message rédigé par une forme de vie intelligente. Or, si je vous parle de cette étoile ce matin, c'est parce qu'un astronome amateur, un certain Alberto Caballero, affirme qu'elle est la source la plus probable d'un signal radio enregistré il y a 45 ans par un télescope américain. Un signal connu sous le nom de WOW, W-O-W, dont il n'est pas exclu, voilà, qu'il ait été émis par une civilisation extraterrestre. En tout cas, le travail de cet astronome vient d'être validé par ses pairs et d'être publié dans la très sérieuse revue scientifique International Journal of Astrobiology. Donc sur le papier, c'est du sérieux. Nous sommes le 15 août 1977 lorsqu'un radiotélescope de l'Université de l'Ohio capte précisément ça. Et ça dure pendant 72 secondes, très exactement. Un signal très puissant, puisqu'il est 30 fois supérieur au bruit de fond de l'univers. C'est d'ailleurs cette intensité qui explique le nom donné à ce sifflement bizarre. Le technicien qui parcourait les relevés papier du radiotélescope a été tellement estomaqué en découvrant la trace de ce signal qu'il a écrit en rouge « Waouh » dans la marge. Ça donne donc le signal « Waouh ». Ce qui ne répond pas à la question fondamentale, c'est quoi ce signal? De quoi provient-il et quelle en est l'origine? Eh bien, selon toute une communauté de chercheurs, ce que vous avez entendu reste 45 ans après sa réception, le meilleur candidat pour un signal radio extraterrestre, car il était observé sur une bande de fréquence extrêmement étroite, une bande vierge de toute pollution sonore générée par des phénomènes naturels connus. En clair, ce signal aurait été produit par une technologie. Restait à trouver son origine, et c'est ce à quoi s'est attelé Alberto Caballero. Il est parti du postulat qu'une forme de vie intelligente nécessite une planète habitable, ok, qui elle-même nécessite une étoile répondant à certains critères. Il a donc passé en revue tous les astres sur lesquels les antennes du radiotélescope pointaient le fameux soir du signal WOW, et après avoir écarté les étoiles trop chaudes et trop froides, il a obtenu une liste de 66 candidates, mais seule l'une d'entre elles, la fameuse étoile au nom interminable que je vous ai prononcé, ressemble précisément à notre Soleil avec une température et une luminosité semblables. L'astronome invite donc la communauté scientifique à pointer ses instruments en direction de cette fameuse étoile dans l'espoir d'y détecter peut-être un jour une technosignature, une trace de vie extraterrestre. Et si le signal WOW provenait de cette étoile, c'est à lire sur le site du Parisien.
Et c'est passionnant, et c'est vraiment incroyable même. Merci Julien, merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
Le reste du sport, à tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres. Alban Le Prince.
Et justement, un fiasco total pour le football ce week-end. Déjà avec la finale de la Ligue des Champions samedi au Stade de France, le préfet de police de Paris saisit la justice pour fraude massive aux faux billets. Des milliers auraient été falsifiés. Le ministère des Sports convoque ce matin à 11h l'ensemble des parties prenantes pour identifier les dysfonctionnements. Autre soirée chaotique hier pour les barrages entre Saint-Etienne et Auxerre qui repassent en Ligue 1. Les Verts sont relégué en Ligue 2. Au coup de sifflet final, envahissement de terrain, affrontement, fumigène, bilan 14 blessés côté force de l'ordre, 17 côté supporters. Deux joueurs auxerrois ont également été touchés. La politique, le retour des panneaux devant les bureaux de vote ce lundi. Coup d'envoi aujourd'hui de la campagne pour les législatives. Elles auront lieu les 12 et 19 juin. Et puis la variole du singe gagne du terrain en France. Désormais 16 cas confirmés par Santé publique France, 12 en Ile-de-France, 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Occitanie et 1 en Normandie.
Europe 1. Vous avez la parole chaque matin sur Europe 1, vous qui faites bouger le pays. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Serge Toulzac.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de Bluelar, une jeune entreprise qui prétend avoir mis au point le climatiseur le moins énergivore du marché. Expliquez-nous.
Écoutez, exactement, on a mis au point il y a quelques années, on a travaillé beaucoup sur ça, sur un climatiseur qui fonctionne principalement à l'énergie solaire, directement et sans onduleur. Donc les panneaux solaires produisent l'énergie et elle est consommée directement par le climatiseur.
Quand vous installez le climatiseur, ça vient forcément avec des panneaux solaires?
Alors non, est-ce qu'elle marche aussi directement sur le courant électrique? Parce qu'elle a trois modes de fonctionnement. Donc quand il fait très beau et qu'il y a des panneaux solaires, elle fonctionne sur les panneaux solaires tant qu'il y a de l'énergie solaire qui arrive donc pendant la journée. S'il y a un nuage qui passe, s'il y a une baisse de luminosité, le climatiseur passe sur l'électricité du réseau. Il complète avec un peu d'électricité du réseau. On est donc en mode hybride. Et la nuit, ou s'il n'y a pas de panneau solaire, il fonctionne 100% à l'électricité de la maison.
Donc c'est un système tout-terrain, quelle que soit l'heure de la journée ou de la saison.
Exactement. On ne voulait pas que les climatiseurs s'éteignent quand il ne fait pas suffisamment beau, l'hiver par exemple. pour le chauffage, ou l'été, si il y avait un petit orage, que le climatiseur continue à fonctionner automatiquement et sans aucune manipulation des personnes.
Alors, je sais que vous allez me répondre que c'est en fonction de l'ensoleillement, de la localisation, mais en moyenne, il faut combien de panneaux photovoltaïques pour alimenter un climatiseur en été ?
Alors, le climatiseur qui va fonctionner pour environ 30 mètres carrés, il ne nécessite que 3 panneaux solaires. Et le plus gros, pour environ 60 mètres carrés, 5 panneaux solaires aujourd'hui suffisent si on met des panneaux solaires de 380-400 watts.
Assez peu de panneaux solaires qui fonctionnent donc en permanence.
Exactement.
Ça permet de faire de grosses économies d'électricité, votre système ?
Des grosses économies l'été surtout, parce que c'est à cette période-là où il y a le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement. Par exemple, dans la région de Marseille, on peut être jusqu'à 99-95% solaire l'été. Et l'hiver, on est à peu près à 40-50% solaire pour le chauffage, ce qui est déjà extraordinaire par rapport à un climatiseur standard.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais ce sont des climatiseurs réversibles. Donc l'hiver, ils chauffent.
Exactement. Oui, ce sont des climatiseurs réversibles qui ont une particularité, c'est de s'alimenter à l'énergie solaire directement. Voilà, un branchement extrêmement simple puisqu'on ne met pas d'onduleur. On n'a pas besoin de transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif.
Est-ce que les panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité même quand on n'utilise pas le climatiseur, par exemple au printemps ?
On peut le faire. On est en train de développer des systèmes qui vont le permettre, mais ça va nécessiter, pour se servir du courant non utilisé, d'avoir recours à un onduleur. Et donc la philosophie qui est la simplicité d'installation et surtout pas de surcoût lié à l'onduleur, on va tomber dans ces points-là. Donc aujourd'hui, on préfère travailler que sur la partie photovoltaïque et ne pas consommer l'énergie qui est produite par les 3, 4 ou 5 panneaux solaires, de sorte que ça reste simple et peu de surcoût sur l'onduleur et éventuellement les batteries.
Comment vous est venue l'idée de créer Bluelar ?
Ben écoutez, je travaille, je suis informaticien et je suis passionné d'électronique et je faisais ça un peu le soir et aussi les week-ends avec les enfants pour les initier à l'électronique et à l'informatique. À la maison, on est très féru d'écologie et on aime beaucoup la planète, mais on souffre de la chaleur comme tout le monde. Et au hasard, je lisais des publications scientifiques sur le CO2, les gaz à effet de serre et l'augmentation du nombre de kilowattheures qui seront produits pour éviter le réchauffement climatique, pour se rafraîchir. J'ai conçu un petit appareil qui va permettre de bloquer le courant alternatif quand il y a du courant continu. Et j'ai tout de suite pensé à l'idée d'un climatiseur qui fonctionnerait de cette manière.
Parce qu'on n'en a pas forcément conscience, mais la climatisation commence à peser de plus en plus sur la production d'énergie.
Exactement, et en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus il y a de réchauffement climatique, plus le besoin de se rafraîchir est grandissant, ce qui est très important. C'est le confort pour qu'on puisse vivre au quotidien. Encore, nous, à des âges jusqu'à la cinquantaine, soixantaine, jusqu'à 70 ans, on supporte assez bien, mais après, ça peut devenir très difficile. Donc, plus il fait chaud, plus le recours à la climatisation augmente. Et plus on fait de la climatisation, plus on consomme d'électricité et plus on augmente le taux de CO2. Voilà, ça a été notamment pointé par l'Agence internationale de l'énergie qui dit que d'ici 30 ans, on va doubler les émissions de CO2 uniquement à cause de la climatisation.
Et j'imagine que l'installation de votre système est plus coûteuse qu'un climatiseur classique, mais avec les économies réalisées, on peut rentabiliser l'installation en combien d'années selon vous ?
Alors, c'est forcément un peu plus coûteux, parce que la seule chose qui est plus coûteuse, c'est l'installation des panneaux solaires. Alors, aujourd'hui, il y a des vidéos sur le site bluelar.com où vous pouvez voir l'installation de panneaux solaires, comme quoi c'est assez facile, puisque la difficulté, en vérité, dans les panneaux solaires, c'est pas les mettre sur le toit, mais c'est plutôt de faire les branchements avec les onduleurs à la maison pour pouvoir consommer l'électricité générée. Mais si l'installation est faite par un professionnel, forcément, il y a un surcoût. Et aujourd'hui, avec les analyses de production et de consommation photovoltaïque pour les climatiseurs Bluelar, le retour sur investissement est inférieur à 3 ans.
Ouais,
sans compter l'économie de CO2 pour la planète, qui est aussi conséquente.
Ce qui est un argument non négligeable. Vous avez beaucoup de demandes en ce moment, après ce mois de mai particulièrement chaud ?
Alors, on a beaucoup de demandes. Alors, pas que depuis mai. On a beaucoup de demandes, beaucoup sur l'Afrique et les dom-toms, et dans le sud de la France, dans l'Espagne et l'Italie, et curieusement, beaucoup en Belgique aussi. Voilà, aujourd'hui, on répond assez rapidement à la demande et on essaye de développer un réseau de partenariats d'installateurs, parce que c'est difficile de se déplacer un peu partout. On note aussi que dans les campings et surtout dans les mobil-homes, ça démarre aussi très fort, parce que c'est un vrai besoin qu'ont les campings de pouvoir donner du confort à leurs clients sans augmenter la facture d'électricité et celle de CO2 pour l'écologie.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Serge Toulzac, de nous avoir présenté Bluelar et son climatiseur hybride économique et bien sûr écologique. Excellente journée à vous.
Merci beaucoup, Julien.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil. Nous sommes le lundi 30 mai. Dans un instant, le journal de 5h30 de Lénaïque Monnier où l'on va aller à Londres pour Londres qui se prépare pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Et puis c'est un discours que nous avons beaucoup entendu après le premier confinement.
Oui, envie de verdure, envie d'espace. Un discours tenu par les citadins confinés, mais sans vouloir pour autant tout bouleverser. Résultat, l'achat de résidences secondaires a connu une hausse jusqu'à l'an dernier. Mais il semblerait que le soufflet soit en train de retomber. Les explications dans un quart d'heure du président de Préto, c'est un courtier en crédit immobilier.
Mais avant la météo avec Anissa Haddadi, les nuages seront plus nombreux aujourd'hui dans le sud.
Oui, ça se couvre sur le golfe du Lion et jusqu'à la Côte d'Azur. On a pas mal d'entrées maritimes aussi en Corse et sur le littoral varois. Alors cet après-midi, sur toute la moitié sud, ça sera de plus en plus voilé. Alors attention, hein, on n'est pas sur du mauvais temps, mais on est sur un soleil un peu moins radieux que ces derniers jours, avec même des averses et des coups de tonnerre sur les Pyrénées, par exemple. Sur la moitié nord, là, ça va un petit peu mieux. Ce matin, on a encore un tout léger risque d'averse sur les côtes de la Manche et le long de la frontière belge. Et puis, dans l'après-midi, sur la moitié nord, on aura un ciel vraiment partagé entre nuages et éclaircies, avec un petit peu plus d'éclaircies qu'hier. Et c'est dans le Grand Est que le soleil sera le plus généreux. Alors, côté température, là, il va falloir vous couvrir. Tenez un exemple de ce contraste impressionnant entre le nord et le sud. Hier, à 7h du matin, nous avions 23 degrés à Bastia. Et moins 1 à Mout, 25 degrés d'écart entre le Doubs et la Corse. Alors ce matin, on a 3 degrés à Charleville-Mézières, 5 à Caen, 8 à Paris et Strasbourg, 13 à Biarritz et déjà 19 degrés à Nice. Cet après-midi, 15 pour Dunkerque seulement, 18 à Brest, 20 à Paris, 26 à Perpignan, 28 à Marseille. C'est 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison quand même.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent début de journée à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une ce matin, cette question: comment la finale de la Ligue des Champions a-t-elle pu dégénérer à ce point samedi soir? Le problème venait-il vraiment des supporters anglais munis de faux billets? Élément de réponse dans ce journal. À qui le tour? Dès demain soir, pour certains d'entre vous, il sera trop tard pour rendre votre déclaration de revenus. Qui est concerné? On fait le point dans un instant. Et puis la deuxième semaine débute sans Français à Roland-Garros. Comment le tennis tricolore peut-il se relever? On en parle dans un instant avec Axel May.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À qui la faute après le fiasco de la Ligue des Champions? Une réunion entre organisateurs, la police et les autorités locales va tenter de le déterminer en fin de matinée, puisque pour l'instant tout le monde se renvoie la balle. La secrétaire d'État britannique en charge de la culture et des sports a demandé à l'UEFA une enquête officielle. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, lui saisit la justice pour la fraude massive aux faux billets.
Et justement, revenons un instant sur cette histoire de faux billets. Dès samedi soir, Gérald Darmanin dénonçait l'attitude des milliers de supporters anglais munis de faux tickets aux abords du stade.
Alors, est-ce qu'il est allé un peu vite en besogne? En tout cas, c'est ce qu'avance l'opposition. Nous avons souhaité vérifier cette affirmation. Dans quelle mesure la billetterie a-t-elle pu être à l'origine de ces incidents? Guillaume Dominguez, vous avez mené l'enquête pour Europe 1.
Eh bien, le faux billet, qu'il soit une simple copie d'un billet officiel ou une pure fabrication, est une pratique courante lors des grandes compétitions sportives. Elle fait d'ailleurs la réputation du club de Liverpool. Mais selon Ronan Evin, directeur général de l'association Football Supporter Europe et présent au Stade de France aux côtés de plusieurs observateurs, il n'y aurait pas eu de dizaines de milliers de faux billets en circulation sur place.
C'est un problème en tout cas qui avait été communiqué à l'organisation du match, au pouvoir public, mais qui est marginal. Bon, les quelques accréditations que j'ai pu voir étaient des choses plutôt bricolées à la maison. On n'est pas du tout de l'ordre d'une mafia du billet qui aurait revendu des milliers de faux billets aux supporters de Liverpool.
Ce qui a pu également faciliter la fraude, c'est le choix de la billetterie. La France avait demandé à ce que les billets soient numériques, mais les Anglais ont insisté pour un support plus classique, comme nous l'explique le commissaire David Lebars, secrétaire général du syndicat de police SCPN.
Ce sont les Anglais qui ont imposé la billetterie papier. Et normalement, pour une finale, c'est une billetterie électronique qui pose moins de problèmes pour le contrôle Et cette billetterie papier, qui a favorisé aussi la photocopie, a ralenti des passages dans les portiques et est une des causes principales du désordre auquel on a pu assister.
Une réunion ministérielle en présence de l'UEFA et de la préfecture de police de Paris est organisée aujourd'hui à 11h pour tenter de cerner les dysfonctionnements, a annoncé par communiqué le ministère des Sports.
Les explications de Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Autre scène de chaos, hier soir, du côté de Saint-Etienne, les Verts descendent en Ligue 2 après les tirs au but perdus face à Auxerre.
Et au coup de sifflet final, les supporters stéphanois mécontents du barrage perdu ont envahi la pelouse du stade Geoffroy Guichard et lancé des fumigènes. 19 personnes ont été légèrement blessées, dont deux membres des forces de l'ordre.
L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est ce sommet extraordinaire à Bruxelles aujourd'hui.
Un conseil européen exclusivement consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la table des négociations. Le soutien économique à l'Ukraine, l'Union qui a déjà déboursé 4 milliards d'euros d'aide, réfléchit à une rallonge. Un nouveau prêt de 9 milliards d'euros sera discuté.
Volodymyr Zelensky qui s'est rendu hier dans l'est de l'Ukraine pour la première fois, premier déplacement dans la région de Kharkiv.
Oui, le président ukrainien a limogé le chef de la sécurité qui, selon lui, ne travaillait pas à la défense de la ville. Il a également promis que toutes les plus de 2000 maisons détruites seraient reconstruites et de faire revenir la vie à Kharkiv.
5 heures passées de bientôt 34 minutes sur Europe 1. On revient en France où, pour certains d'entre vous, demain sera trop tard pour rendre votre déclaration d'impôt.
Oui, même si vous souffrez de phobie administrative, l'heure n'est plus à la procrastination. Maud Descamps, quand on n'a pas de déclaration en ligne, il faut se lancer, mais pas seulement.
En effet, si vous déclarez vos revenus en version papier, vous avez jusqu'à demain soir, 23h59, que vous soyez en France ou à l'étranger. Vous pouvez vous procurer le formulaire de déclaration sur le site internet impots.gouv.fr ou bien directement auprès de votre service des impôts près de chez vous. La date limite est également fixée au 31 mai pour les télédéclarations des départements allant de 20 à 54, y compris la Corse. En revanche, si vous habitez dans les départements allant de 1 à 19, eh bien là, vous avez dépassé le délai qui était fixé au 24 mai dernier. Il faut donc remplir votre déclaration au plus vite, mais vous risquez de subir une majoration de 10% à cause du retard. Et enfin, si vous habitez dans les départements compris entre 55 et 96, ainsi qu'à Mayotte et sur l'île de la Réunion, eh bien il vous reste encore quelques jours, puisque la date butoir est fixée au 8 juin, 23h59.
Les explications de Maud Descamps pour Europe 1.
Il flotte comme un air de festivité sur l'Angleterre. Les préparatifs pour le jubilé de la reine Elisabeth vont bon train.
Oui, le jubilé de platine qui célèbre les 70 ans de règne de la souveraine. À Windsor, c'est déjà la frénésie autour de l'événement. Depuis un mois, le village où la reine réside désormais à temps plein se prépare à cet événement historique. Anaïs Cordoba.
Dans le centre-ville de Windsor, des façades ornées de banderoles de l'Union Jack et des vitrines redécorées aux couleurs du jubilé, argenté et violet. Dans ce grand magasin, les objets souvenirs font exploser les ventes qui dépassent déjà celles du mariage de Meghan et Harry. Parmi les théières et sacs en toile, le produit star est l'essuie-main à 15 euros. Natacha, responsable marketing, est ravie.
Le jubilé, c'est un événement unique dans une vie. Et puis ça passionne parce que c'est la famille royale. Pour l'instant, on ne peut pas encore comparer ça à Noël en termes de chiffres de vente, mais on attend de voir parce que le jubilé n'est pas encore passé.
De leur côté, certains habitants ont créé l'association du jubilé pour embellir la ville. Aujourd'hui, ils plantent des fleurs dans un petit square au pied du château. Pour Margaret, la présidente, il s'agit de rendre hommage à la reine.
Ça nous tient à cœur. Oui, le quartier général de la reine est au palais de Buckingham, mais c'est ici qu'elle se considère vraiment à la maison. Et ça nous donne un sentiment de responsabilité.
Et ses habitants se sont lancés un défi pour le jubilé, battre le record du monde de la plus longue table de pique-nique lors d'un déjeuner géant face au château. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Temps permettant évidemment, puisque la météo du 2 au 6 juin est également scrutée chaque matin par les Anglais.
Ah d'accord, nous sommes le lundi 30 mai et c'est aujourd'hui que débute la deuxième semaine de Roland-Garros et force est de constater qu'il n'y a plus aucun Français en lice.
Et maigre bilan encore cette année pour le tennis hexagonal. Axel Metz, c'est inquiétant de n'avoir personne en huitième de finale.
Oui, la petite euphorie de ce Roland-Garros n'aura pas duré longtemps. 5 tricolores, Paris, Jean-Jean, Cornet, Simon et Gaston pouvaient encore espérer rejoindre la seconde semaine du tournoi. Et patatras, personne en huitième de finale. Alors certains diront que c'est toujours mieux que l'an dernier où aucun n'avait franchi le deuxième tour. Mais tout de même, le constat est là, le tennis français n'est pas en forme. Nicolas Escudé est le nouveau directeur technique national.
Sans avoir des discours de vieux cons, hein, mais moi, ma génération, du moins quand j'ai tourné la page, certes un petit peu trop tôt, à 28 ans, ans. Derrière, je crois qu'il y avait entre 15 ou 17 Français dans les 100 premiers mondiaux. On en est loin aujourd'hui. Sans forcément non plus être totalement largué, hein, parce que je crois qu'on doit être la troisième nation en termes de représentants dans les 100. Mais par contre, il en manque là-haut.
La génération dorée des Monfils, Gasquet, Simon, approche de la fin. Tsonga a même rangé ses raquettes la semaine dernière. Et la nouvelle génération a du mal à émerger. Les instances fédérales veulent restructurer la formation, élargir la base de détection, notamment chez les moins de 12 ans. Mais c'est un travail au long cours. Et les sourires dans le camp tricolore pourraient mettre du temps à revenir.
Axel May, que vous retrouvez tout à l'heure à 8h30 pour le journal de Roland-Garros, en vous rappelant qu'hier soir, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour son tout premier quart de finale à Roland-Garros aux dépens du Russe Khachanov. Il affrontera pour une place dans le dernier carré le numéro 3 mondial, Alexander Zverev, et puis un alléchant Nadal Djokovic qui nous attend également. C'est une finale avant l'heure.
Ce sera mardi et on en reparlera à 6h10 avec mon invité, le journaliste spécialiste du tennis, Bruno Cuaz. Merci beaucoup Lénaïck Monnier pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction l'hippodrome de Strasbourg pour ce Quintet, un marathon long de 3000 mètres. Et pour bâtir mon pronostic, j'ai accordé un très large crédit aux chevaux venant de très bien faire à ce niveau et sur cette longue distance, à l'image du numéro 1 Goya Senora, d'une régularité de métronome, comme le prouvent ses trois dernières sorties et qui pourrait bien enfin cet après-midi remporter son premier Quintet. On lui opposera les numéros 2 côté jardin, 6e de mon favori Goya Senora dans le quintet du 3 mai à Chantilly, à l'issue d'une fin de course très convaincante, 4 Never Give Away, 2e de la deuxième épreuve de ce quintet référence le 3 mai à Chantilly, et 5 Sudan, 3e d'un quintet similaire le 18 avril à Saint-Cloud, et qui, je le sais, a été préparé avec soin pour cet objectif par son entraîneur Yvonne Vollmer, dont le centre d'entraînement est situé sur place sur l'hippodrome de Strasbourg. Enfin, les numéros 3 Ispahan, 6 Watchmen, 12 Fitzcarraldo et 10 Salsa Queen ont eux aussi des arguments à faire valoir pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet. Mon pronostic, As 2, 4, 5, 3, 6, 12 et 10.
Alors si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous le savez, hein, ces pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, ce sont les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'était le 30 mai 1992. Sur les écrans de télévision, la 7 s'éteignait pour laisser place à la chaîne Arte. Bonjour Océane Théard.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Arte, c'est une chaîne franco-allemande diffusée sur les réseaux câblés des deux pays. Un projet né dans les années 80 à l'initiative du président français de l'époque, François Mitterrand, et du chancelier allemand Helmut Kohl.
Oui, c'est à l'occasion d'une rencontre en 1986 que le projet d'une chaîne télé germe. Jack Lang est alors ministre de la Culture. Il évoque ce projet encore naissant au micro européen de Catherine Ney.
Guerre à Paris, nous avons conclu un accord avec nos partenaires allemands pour donner naissance à cette chaîne culturelle franco-allemande.
Ça veut dire voilà qu'on un projet veut, concret qui avance. Verront des...
Oui, ça veut dire qu'en Allemagne et en France, sur différents réseaux de diffusion, on verra des programmes franco-allemands.
L'idée fait son chemin. En avril 91, Arte est officiellement créée. Fusion de la chaîne française La 7 et d'Arte Deutschland TV en Allemagne. Une première, ça ne s'est jamais fait, se réjouit Jérôme Clément, nouveau président d'Arte. Les premières productions sont lancées. Le premier slogan de la chaîne, laissez-vous déranger par Arte, est créé. Une nouvelle venue qui est loin de faire l'unanimité. Certains redoutent qu'Arte ne fasse de l'ombre aux autres chaînes publiques. Écoutez Bernard Pivot, il est à l'époque animateur sur Antenne 2.
Mon sentiment personnel est celui-ci, c'est qu'on va créer un ghetto culturel, que cette chaîne culturelle va se trouver, puisqu'elle est hertzienne, sous le terrorisme de la part de marché, qu'elle sera donc obligée peu à peu de changer de programme et que ces programmes viendront faire la concurrence non pas à TF1, mais à la 2 et à la 3.
Et malgré les critiques océanes, Arte diffuse sa première émission simultanément en France et en Allemagne le 30 mai 1992.
Oui, 900 000 spectateurs en France et 10 millions en Allemagne qui découvrent Arte sur leur poste de télévision.
Bienvenue sur Arte.
Une émission d'ouverture en direct de l'Opéra du Rhin à Strasbourg, avec des musiciens, des comédiens, des dessinateurs sur scène. Dans les semaines qui suivent, les programmes de la chaîne se précisent. Arte diffuse à partir de 17h des films d'auteurs visibles nulle part ailleurs, du spectacle vivant, du théâtre, de l'opéra. Une sélection peut-être un peu trop pointu qui peine à trouver son public au début, regrette Alain Manval, directeur des programmes d'Arte.
Écoutez, quand on passe, c'est vrai, Le Dernier Empereur et qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup de monde, on se dit que le réflexe Arte, chaîne de télévision culturelle généraliste, n'est pas encore arrivé dans la tête de tous les Français, ce qui est un peu dommage. On a peut-être un problème de communication.
Pourtant, Arte va résister, va tenir. En 2005, la chaîne va commencer à émettre 24 heures sur 24 sur la TNT. Elle veut toucher un plus grand public. Et ça fonctionne, les audiences se redressent. Aujourd'hui, Arte est l'une des rares chaînes de télé à gagner des téléspectateurs. Dernier succès en date, la série En Thérapie.
Merci beaucoup Océane Théard et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1. À suivre, les résidences secondaires qui ont moins la cote. À tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h43 et on parle immobilier à présent. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui, après le premier confinement, ont investi dans une résidence secondaire à la campagne, à la montagne ou à la mer. Cette envie d'un deuxième pied-à-terre serait-elle en train de retomber ?
Bonjour Pierre Chapon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Préto, un courtier en crédit immobilier. D'après votre dernière étude, la demande de résidence secondaire a chuté de 7% entre janvier et avril 2022, alors qu'elle avait atteint une hausse de 30% entre 2019 et 2021, donc une hausse assez importante. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet essoufflement alors que le printemps est une saison propice à l'achat ?
Alors, l'essoufflement, déjà, il est relatif parce que, comme vous l'avez rappelé, on avait connu une augmentation très, très importante sur les deux années précédentes, hein, qui faisait suite à la crise sanitaire. Donc, il y avait eu un énorme engouement pour la résidence secondaire. Et là, ça se calme un petit peu. Alors, ce qui explique ça, c'est que, déjà, une bonne partie des gens qui avaient les moyens de franchir le pas vers la résidence secondaire l'ont fait ces deux dernières années, hein, avec un gros boom. Et là, on a une accalmie. Il y a aussi, sur le début de l'année 2022, un resserrement des conditions d'accès au crédit qui peut impacter encore plus particulièrement des projets de résidence secondaire.
Vous l'expliquez également par la remontée des taux des crédits immobiliers ces derniers mois ?
Oui, tout à fait. Une résidence secondaire, c'est finalement plus accessoire qu'une résidence principale qui correspond à un vrai besoin de logement primaire. Donc, on considère que ces deux dernières années, avec des taux très très bas, le côté, de toute façon, le financement est tellement pas cher, a pu déclencher encore plus l'achat de résidence secondaire. Là, on a des consommateurs qui peuvent se poser un peu plus de questions.
Quel est le profil des acheteurs de résidence secondaire ? Quel a été ce profil il y a deux ans, mais aujourd'hui également ?
Alors, le profil, il bouge pas beaucoup, hein. C'est des gens en moyenne de 45 ans qui sont pour la plupart déjà propriétaires de leur résidence principale et qui ont des revenus assez confortables.
Oui, ce sont des foyers plutôt aisés. Vous disiez tout à l'heure des personnes qui ont les moyens, c'est ça, hein, évidemment.
Oui, c'est ça. C'est des foyers plutôt aisés. Sans surprise, hein, c'est quand même du plus comparé à la résidence principale. Donc, c'est des gens qui gagnent en moyenne près de 6 000 euros par mois pour le foyer.
Oui, donc ça reste un marché de niche finalement.
Oui, 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 ça reste un marché de niche. Hein. Chez nous, ça pèse à peu près 3-4% des demandes de crédit. Donc, c'est finalement assez à la marge du marché, même s'il y avait eu un gros boom les années précédentes.
Ce que vous montrez aussi dans votre étude, hein, c'est qu'on recherche plutôt dans l'ancien. Cela va avec l'envie de se mettre au vert, retour à la terre, à l'authentique, hein, ce qui a provoqué aussi cette pandémie et ce premier confinement.
Oui, de toute façon, la résidence secondaire, ça a toujours été campagne, mer. Donc avec, en particulier à la campagne, beaucoup d'attrait pour le charme de l'ancien. C'est toujours le cas, même avec ce regain d'intérêt post-pandémie. Oui.
Alors cette frénésie en 2020 et 2021, ce n'est pas forcément pour totalement changer de ville, envie de se mettre au vert après avoir été confiné, mais on ne veut pas non plus tout bouleverser. C'est ce que vous avez constaté aussi.
Oui, tout à fait. Le gros du marché de la résidence secondaire correspond à des achats qui sont assez proches de la résidence principale. La moitié est à moins de 140 km. Et donc, c'est des gens qui ne changent pas de vie et qui ont une maison pour le week-end, même si, avec l'avènement du télétravail, le week-end prolongé rend l'attrait de la résidence secondaire encore plus intéressant.
Alors, quelles sont les régions qui ont particulièrement la cote ? Qu'est-ce que vous avez constaté dans votre étude ?
Alors, les régions qui ont la cote, peloton de tête, c'est PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.
assez...
Donc le sud de la France essentiellement, le sud de la France beaucoup.
Exactement, le sud de la France, le soleil. Après, quand on regarde en plus particulièrement les acheteurs qui viennent de Paris et d'Île-de-France, là, c'est des régions un petit peu plus proches, comme la Normandie, qui a toujours la cote pour les Parisiens.
Et bien sûr, ils ne vont pas très loin. Il reste aujourd'hui peu de biens à la vente dans les régions où le marché a connu une forte croissance.
Oui, tout à fait. Ça peut être une explication aussi de l'essoufflement. Les biens peut-être particulièrement intéressants se font plus rares en 2022 comparé à 2020.
Mais ce n'est pas un constat qu'on fait sur l'ensemble du territoire. Peut-être qu'il y a des régions prochainement qui auront droit à leur boom également. Ça, on le verra.
Peut-être, on le verra. On n'a pas encore de sur cet aspect-là.
Bien sûr. Les valeurs des biens a-t-elles d'une manière générale fait un bond également profitant de cette demande accrue? C'est la loi du marché finalement.
Oui, il y a une augmentation. Après, pas particulièrement pour la résidence secondaire. Il y a eu de toute façon sur les 2-3 dernières années une augmentation relativement forte des prix des maisons en particulier en province. Donc ça s'applique aussi aux résidences secondaires, mais c'est pas particulièrement accentué pour les résidences secondaires.
Alors, quelles conséquences pour les locaux, d'ailleurs, qui ont vu effectivement des maisons achetées par des citadins, des personnes qui ne vivaient pas là? Est-ce que ça a été plus compliqué pour les personnes qui vivent sur les communes d'acquérir une maison, d'acquérir un appartement?
Oui, indéniablement, ce boom des 3 dernières années a eu ce genre d'effet. On n'a pas quantifié cet effet-là, mais on observe des régions, c'est le cas du Pays Basque, où il y a même une gronde des habitants locaux sur la hausse des prix, la grande difficulté à se loger. De manière peut-être un tout petit peu plus atténuée, ça doit être aussi le cas dans la campagne un petit peu plus proche de Paris aussi.
Alors l'effet que vous avez quantifié, c'est cette baisse ces derniers mois. Est-ce que, selon vous, cet essoufflement finalement était attendu? Vu la hausse il y a 2 ans, est-ce qu'on revient un petit peu à la norme et la balance s'équilibre?
Oui, je pense que oui, c'était attendu. Il faut quand même bien retenir qu'on est quand même à des niveaux qui restent plus élevés que juste avant la pandémie. Donc c'était attendu et ça pourrait continuer de baisser parce qu'on n'est pas encore à la normale.
Et on aura l'occasion à nouveau d'en reparler, je l'espère. Merci beaucoup, Pierre Chapon, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de Préto, un courtier en crédit immobilier. Merci encore, bonne journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h10 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce lundi, Alban Le Prince.
Alors que les 27 se réunissent à partir d'aujourd'hui à Bruxelles pour 2 jours entièrement consacrés à l'Ukraine, sur place, Volodymyr Zelensky, le président, est allé hier pour la première fois depuis le début de la guerre à l'est du pays, à Kharkiv. Après le chaos de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France samedi soir, la polémique sur les scènes de pagaille aux abords du stade, le préfet de police de Paris saisit la justice pour fraude massive aux faux billets, tandis que le ministère des Sports convoque l'ensemble des parties prenantes ce matin. Autre fiasco, hier soir, pour le barrage Saint-Étienne-Auxerre, 10 ans après, Auxerre retrouve la Ligue 1, les Verts relégués en Ligue 2. Match marqué par des débordements entre envahissements de terrain et tirs de fumigène, le stade Geoffroy Guichard récidiviste risque de graves sanctions. 2 joueurs auxerrois ont été blessés.
L'actualité culturelle à présent, et lundi, on parle série. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Ambline et Julien.
C'est la série probablement la plus larmoyante et elle s'est achevée il y a quelques jours. On parle bien sûr de This Is Us.
I'm losing my memory. Sometimes I think about what my very last memory will be before the candle goes out.
Et oui, après 6 ans, This Is Us, c'est fini. Le dernier épisode disponible sur MyCanal était diffusé mercredi dernier aux États-Unis. Alors pour ceux qui seraient passés à côté de ce bijou, This Is Us raconte avec justesse les aléas, les petits chagrins et les grands bonheurs, les traumatismes et les réussites de la famille Pearson que l'on suit pendant plus de 40 ans. Les parents et leurs 3 enfants, des triplés surnommés les Big Three, des épisodes sous forme de leçons de vie qui profitent d'une réalisation travaillée. L'alternance entre le passé, l'enfance et le présent, leur vie d'adulte. Avec toujours à la fin de l'épisode, une morale qui suit toujours un peu le même leitmotiv, l'optimisme.
J'aime l'idée que peut-être un jour, quand vous serez un vieil homme comme moi, vous rencontrerez un jeune homme comme vous et vous lui expliquerez comment un jour, vous avez pris le citron le plus acide, le plus amer que la vie ait produit, pour en faire quelque chose qui ressemble à de la limonade.
La série Miroir de nos propres tourments familiaux avait battu des records d'audience lors de la première saison. Diffusée et adaptée à l'étranger, comme ici en France avec son programme jumeau Je te promets. Et puis, This Is Us est un peu essoufflé, il faut le dire. Et il est temps pour nous de dire au revoir au personnage, non sans tristesse, comme me l'ont confié ses passants.
Je dois avouer que j'étais un petit peu étonnée du dernier épisode parce que c'est une série qui était très tire-larme et le dernier épisode, ils ont plutôt joué la carte de la sobriété. Voilà, on s'est un petit peu orphelin. On avait l'impression de faire partie de la famille.
Et alors pourquoi cette série, elle touche autant ?
Parce que c'est un peu nous, c'est un peu ce que l'on vit, c'est un peu le parcours éducatif de chaque parent. On se pose des questions sur la sensibilité de l'un, de l'autre.
Est-ce que vous avez pleuré pour le dernier épisode ?
Ah oui. En espérant peut-être potentiellement un jour la reprise de cette série-là.
Chaque accident de la vie de leur famille est générateur de larmes et de consommation de Kleenex.
Bon alors, Omblin, oui. Vous qui êtes une grande fan, vous partagez tellement. Ce sentiment ?
Mais je partage ce sentiment à tous les niveaux et surtout d'avoir envie de faire partie de cette famille, c'est quelque chose qu'on ressent depuis la première saison, depuis le premier épisode.
Bon alors, vous n'êtes pas la seule à avoir versé quelques larmes, les comédiens aussi, durant le tournage du final.
Alors Marie, c'est un exercice périlleux, comment aborder ce dernier épisode, le 18e de la saison 6, sans divulgâcher, comme vous dites, la fin à nos auditeurs.
Eh bien, vous ne serez pas déçus. Déjà, il y a cette esthétique avec des jeux de lumière et des mises en scène qui font très peinture d'Edouard Hopper. Et puis, côté scénario, pour ce final, eh bien, la famille se retrouve un samedi sans contrainte. Pas de match de foot, pas de devoir, ouverture donc d'un champ des possibles. Jeu de société, jeu dans le jardin. La juste dose entre niaiserie, grâce et douceur. Profitez-en bien car la série n'aura pas de suite. Le créateur Dan Fogelman, aux manettes de films, un très retour en enfance comme Cars ou Réponse, eh bien le créateur avait cette fin en tête depuis très longtemps. Il l'a expliqué sur Twitter, confiant qu'il avait réussi sa mission, créer une série qui serait, je le cite, un câlin entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. Mielleux à l'image de This Is Us.
This Is Us, mielleux. Donc le final et toute la saison 6, à voir et à revoir sur MyCanal. Merci beaucoup Marie Jiquel.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et votre invité Julien.
Un homme qui, tenez-vous bien, couvre cette année son 38e Roland-Garros consécutif. Le premier c'était en 1984 et depuis il a passé en cumulé, j'ai calculé, près d'un an et demi au bord des terrains de la Porte d'Auteuil. Cet homme c'est le journaliste Bruno Cuaz qui sera avec nous dans une dizaine de minutes pour nous partager sa science de la terre battue et surtout débriefer cette première semaine qui s'est achevée hier avec les premiers huitièmes de finale. Qui sont les favoris à ce stade, les surprises, les déceptions, rendez-vous à 6h10 sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et puis on écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Et ils ont débuté avec une musique pop-rock plutôt mélancolique. Le deuxième album, No Need to Argue, en 1994, avec ses titres plus intenses, est devenu très populaire. La partition des Cranberries dans 20 minutes.
La météo, Anissa Haddadi, ce lundi sera calme.
Calme et sec, on aura très peu de pluie. Aujourd'hui, ce matin, nous avons quelques petites gouttes hein, sur les côtes de la Manche, c'est trois fois rien, le long des frontières, de la frontière belge aussi. Et puis sur les Pyrénées, où les petites averses pourront même être accompagnées cet après-midi de quelques coups de tonnerre. Alors sur la moitié nord, on a des nuages, mais moins de nuages qu'hier. C'est vrai qu'hier, on avait beaucoup de nuages qui ont masqué le soleil. Là, on a plus d'éclaircies aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le quart Grand Est hein, que le soleil sera le plus généreux. Sur la moitié sud, le ciel est partagé, beaucoup plus qu'hier. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies, on aura un voile nuageux qui va couvrir toutes les régions de la moitié sud, avec des nuages même plus épais entre le golfe du Lion et la Corse. Les températures, il fait frais ce matin. Couvrez-vous, 3 à Charleville-Mézières, 8 à Paris, 19 à Nice. Cet après-midi, 17 à Roubaix, 18 à Rouen. 20 à Paris, 23 à Bordeaux, 28 à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le lundi 30 mai. Il est 6h.
C'est pathétique, vous voulez pas laisser cette image.
On voulait pas laisser cette image.
On vient de l'entendre, des spectateurs choqués par les scènes de chaos à Saint-Étienne, des centaines de supporters sur le terrain, des fumigènes lancés depuis les tribunes, le cauchemar à Geoffroy Guichard pour le match barrage retour. Les Verts battus par Auxerre descendent en Ligue 2, le club est même à vendre. Le silence étonnant d'Emmanuel Macron, le président de la République, plutôt absent ces derniers temps, se déplace à Bruxelles pour un conseil européen. Thème principal, l'Ukraine. Et puis l'échec du sauvetage de l'Orque dans la Seine, le cétacé égaré dans le fleuve français depuis plusieurs jours va finalement être euthanasié. Explication à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal qui vous est présenté ce matin par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous l'entendez, les pétards et les fumigènes lancés par les supporters hier à Saint-Étienne. Scène de chaos au stade Geoffroy Guichard après la défaite au tir au but face à Auxerre en match de barrage retour Ligue 1, Ligue 2. Des centaines de personnes ont envahi le terrain. Une réponse au cauchemar des Verts qui descendent à l'échelon inférieur 18 ans après l'avoir quitté, au plus grand dam des spectateurs choqués par ces débordements.
C'est pathétique, on voulait pas laisser cette image. On voulait pas laisser cette image. Oui, on est triste. Mais c'est pathétique, cette violence.
Ça, c'est pas le foot. Voilà. C'est le foot, c'est voilà.
Oui, on est déçu de descendre en Ligue 2, mais on le mérite tellement depuis 3 ans que voilà. Mais c'est triste de voir des choses comme ça. Surtout qu'il y a des enfants là, qu'on a soignés avec les lacrymos, enfin qui avaient pris des lacrymos et machin.
Les jets de projectiles ont blessé légèrement 2 joueurs auxerrois. Selon la préfecture de la Loire, de lourdes sanctions sont attendues pour le club stéphanois qui est aujourd'hui à vendre.
Une nouvelle scène qui entache le football 24 heures après les incidents autour du Stade de France.
Où des centaines de personnes ont tenté de pénétrer dans l'enceinte pour assister à la finale de la Ligue des Champions, munies de faux billets, et même 100 face à des forces de l'ordre dépassées. 105 personnes ont été interpellées, 39 en garde à vue. La préfecture de Paris a saisi la justice pour fraude massive. Une réunion ministérielle aura lieu tout à l'heure à 11h. Pour tenter de faire la lumière sur les dysfonctionnements.
Matignon, une nouvelle fois pointé du doigt dans cette affaire, mais toujours pas de réaction d'Emmanuel Macron qui sera loin de tout ça aujourd'hui. Il sera à Bruxelles.
Oui, un président de la République bien silencieux depuis plusieurs jours. Après avoir passé son week-end bien caché au fort de Brégançon, Emmanuel Macron va sortir de sa torpeur pour assister au Conseil européen cet après-midi. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Thème principal de ce Conseil européen, l'Ukraine.
Oui, sur la table des négociations, le soutien économique à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Kiev voit son PIB s'effondrer, 30 à 50% de baisse, ce sont les estimations pour cette année. Conséquence, l'Union européenne, qui a déjà déboursé 4 milliards d'euros d'aide, réfléchit à remettre au pot un nouveau prêt de 9 milliards d'euros va être discuté. La sécurité alimentaire doit aussi être débattue. Comment permettre l'exportation des céréales et des oléagineux ukrainiens pour éviter que les récoltes ne pourrissent? Il est notamment question de mettre en place un corridor de solidarité qui passerait par la Roumanie et la Pologne. Les 27 doivent aussi se mettre d'accord pour se coordonner dans les achats d'armement, alors qu'un certain nombre de pays se sont défaits de leur stock pour fournir l'armée ukrainienne. Enfin, il s'agit une fois de plus de trouver des solutions pour réduire la dépendance énergétique de l'Union à l'égard de la Russie, pour financer les investissements dans les énergies renouvelables et dans la diversification des approvisionnements. Une enveloppe de 200 milliards d'euros pourrait être débloquée. 200 milliards issus du plan de relance européen, à l'origine conçue pour l'après-Covid-19, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ne sera-elle pas abordée, renvoyée au prochain conseil prévu dans 3 semaines.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La France et l'Allemagne ont demandé la reprise de négociations sérieuses avec Moscou. Vladimir Poutine se dit toujours ouvert à la discussion.
L'Ukraine avec le déplacement du président Volodymyr Zelensky dans l'est du pays.
Oui, une première depuis le début du conflit. Le président ukrainien qui s'est rendu à Kharkiv, tenue kaki, casque sur la tête et gilet pare-balles sur le dos. Il est venu constater les dégâts dans la deuxième ville du pays où 2229 maisons ont été détruites selon les autorités. Et selon les chiffres de Kiev, au moins 224 enfants ont été tués depuis le début du conflit.
On reste à l'étranger avec la situation au Brésil où le nord-est du pays a été touché par de très fortes pluies.
Engendrant des inondations et des glissements de terrain, le bilan est lourd, très lourd et surtout provisoire. Selon le gouvernement, 79 personnes ont perdu la vie, plus de 4000 personnes se retrouvent sans abri.
On revient en France à 6h04 sur Europe 1 avec la fin prochaine des souffrances pour l'Orque de la Seine.
Oui, cela ne se terminera pas comme le film Sauver Willy. Malheureusement, plusieurs jours que le cétacé survit. Un animal qui vit normalement en eau salée après de nombreuses tentatives pour tenter de le sauver. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé vouloir euthanasier l'Orque. La maladie dont elle est atteinte entraîne maintenant de trop fortes lésions. Lamia Essemali, présidente de l'association Sea Shepherd, explique le déroulé des opérations à venir.
Alors l'idée de ce qu'on en a compris, c'est d'utiliser dans un premier temps un sédatif qui est envoyé avec une fléchette et dans un second temps le produit euthanasiant. Donc voilà, c'est ça la méthode qui est censée être appliquée. Nos bateaux sont actuellement sur l'eau et notre objectif prioritaire là, c'est de retrouver l'orque puisque vu son état de santé qui semble très très mauvais et d'après l'avis unanime des vétérinaires malheureusement irréversible, notre objectif prioritaire c'est qu'elle ne meure pas seule dans une agonie qui serait prolongée inutilement, même si on a fait part à la préfecture de notre volonté de faire une approche supplémentaire avec des vétérinaires afin d'avoir une confirmation du diagnostic.
Propos recueillis par Arthur Pereira pour Europe 1.
La variole du singe se propage sur le sol français.
Oui, c'est ce qu'a ont été confirmés en France. Cette maladie qui provoque fièvre, douleurs musculaires avant que se développent des cloques et des pustules est en train de s'étendre en Europe. Mais selon le ministère de la Santé, il n'y aura pas de flambée. En cas de constatation de plusieurs symptômes, il faut contacter un médecin.
Pas de flambée pour la variole du singe. En revanche, les prix, eux, continuent de flamber.
Vous l'avez constaté dans les magasins, la viande, les produits de la mer, les céréales, mais aussi beaucoup d'autres denrées sont devenues plus chères. Les distributeurs tablent sur une augmentation moyenne de 8% avec l'inflation cette année. Cela fait tout simplement 224 euros en moyenne de plus sur votre panier en 2022. Europe 1, vous êtes donc à faire des économies en vous proposant des astuces de chef avec Noah Moussa.
4 couverts qui passent avec une galette, 2 asperges, suivi d'un agneau.
Pour tous ces plats qu'il concocte chaque jour dans son restaurant, le chef Romain Bergo a vu les prix s'envoler. Alors pour alléger sa facture, son premier conseil, c'est de trouver des alternatives. Par exemple, à l'huile de tournesol devenue introuvable.
Pour une mayonnaise toute simple avec un jaune d'œuf, un peu de moutarde montée à l'huile, la pépin de raisin ou l'huile de colza, ça marche très bien.
Le chef conseille aussi de remplacer les pièces de viande chères comme le bœuf, l'agneau ou le veau par d'autres plus accessibles.
La volaille, bien sûr, restera le produit le moins noble. Le rab de lapin, c'est un peu moins consommé, donc c'est un produit qui va être moins cher.
Autre source de protéines de saison et qui ne coûte pas cher, les moules.
On compte 500 grammes par personne pour un plat de moules. En fait, on a une portion à 2 euros avec quelques petites pommes de terre au four. Et en fait, pour 2,50, vous avez un repas chez vous.
Pour économiser, le plus simple reste encore de passer derrière les fourneaux et par exemple de faire sa propre crème dessert au chocolat.
On fait bouillir du lait, ensuite on va faire ce qu'on appelle un roux. C'est un mélange de beurre et farine. C'est comme une béchamel dans laquelle on va rajouter du sucre et du chocolat. On fait refroidir et on a notre danette maison.
Dernière astuce du chef Bergo, évitez le gaspillage en utilisant les restes. Prenez par exemple la fin de votre pâte à crêpes, ajoutez des pruneaux, cuisez le tout au four et vous avez un délicieux phare breton maison.
Reportage de Noah Moussa pour Europe 1.
Et c'était le journal de Johan Tritz. Merci beaucoup Johan.
Il est 6h07, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange, et on en parlait au début du journal, hein, la soirée de KO à Saint-Etienne hier après la défaite des Verts.
Oui, Saint-Etienne, un 10 titres de champion de France, jouera la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts ont été battus au tir au but hier soir par Auxerre en barrage. Un résultat qui a rendu fou un certain supporter. Au coup de sifflet final, hein, des centaines d'individus ont envahi la pelouse de Geoffroy Guichard. Fumigène, jet de siège. Les stadiers ont vite été pris de court et les joueurs ont craint pour leur sécurité. Écoutez l'entraîneur d'Auxerre, Jean-Marc Furlan.
La fin du match, on est tous rentrés rapidement. On avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire, donc on a compté tout le monde. C'est un peu triste, oui.
Jean-Marc Furlan, justement, qui ramène Auxerre en Ligue 1 10 ans après. La JA, autre institution, un champion de France en 1996, avec à sa tête un certain Giroud, consultant pour Europe 1, qui était particulièrement ému hier soir et qui a tenu à rendre hommage à son successeur, Jean-Marc Furlan.
Je regarde et j'ai une admiration immense pour lui. Là, ce qu'il a fait là, je ne l'aurais peut-être pas fait.
On passe au tennis, Martin, avec le choc tant attendu qui se profile en quart de finale.
Oui, Djokovic-Nadal, un 41 grand chelem à E2, ça sera mardi. Hier, les deux mastodontes se sont qualifiés tranquillement pour Djokovic, vainqueur de Schwartzmann en 3-7, mais beaucoup plus difficilement pour Nadal, qui a eu besoin de 5-7 pour se défaire du Canadien Auger Aliassime, l'Espagnol qui dispute peut-être son dernier Roland.
J'en profite, je suis content d'être là une année de plus et puis pour être franc, chaque match que je joue ici est peut-être, qui sait, mon dernier match à Roland-Garros ou de ma carrière.
Qualification également de Carlos Alcaraz qui affrontera Alexander Zverev en quart. Aujourd'hui fin des huitièmes de finale avec notamment Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.
En bref pour finir Martin.
Du foot féminin et Lyon qui récupère le titre de championne de France. Les Lyonnaises ont battu le PSG hier à 1-0. De la Formule 1 avec la victoire de Sergio Pérez sur Red Bull au Grand Prix de Monaco. Du cyclisme, mais c'est Jay Hindley qui remporte le 105e Tour d'Italie, une première victoire australienne sur le Giro. Et puis on vient de l'apprendre, c'est du basket, la finale de la NBA opposera les Golden State Warriors aux Boston Celtics.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant, le sport continue sur Europe 1. Je reçois le journaliste Bruno Cuaz, 38 Roland-Garros au compteur. À tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, 6h11. Votre invité, Julien, est journaliste spécialiste tennis.
Et pas n'importe lequel, puisqu'il couvre cette année son 38e Roland-Garros. Bonjour Bruno Cuaz.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, les internationaux de France de tennis, dont nous sommes à mi-chemin. Et je tenais à ce qu'on bénéficie de votre expertise pour revenir sur les temps forts qu'on aurait peut-être manqué et tous ceux qui sont à venir. Et justement, on a ce matin la confirmation qu'on va bel et bien assister à un duel Djokovic-Nadal, ce sera mardi en quart de finale.
Oui, oui, ça va être un événement. Alors la grande discussion actuelle, c'est savoir à quelle heure va se jouer ce match. Est-ce que ce sera en session de nuit ou en session de jour? Là, c'est un grand débat des télés, puisque la journée, c'est France Télévisions et le soir, c'est le fameux Amazon Prime.
Et oui, et ce serait dommage que le grand public soit privé de ce qui s'annonce être la plus belle affiche de ce Roland-Garros.
Et oui, là, c'est un débat entre, on va dire, le public, le service public et...
débat aussi entre joueurs, puisque visiblement, Nadal, lui, aimerait jouer en journée, Djokovic, lui, le soir.
Un des rares Espagnols qui n'aime pas apparemment être le soir en action. Mais bon, il était, on l'a vu, au Stade de France pour suivre le Real Madrid. Je pense que Rafa va s'acclimater au soir. Je pense que ce soit lui qui fasse la programmation.
Nadal qui a dû batailler hier soir pour venir à bout en 5-7 de Félix, du Canadien Félix Auger-Aliassime. Est-ce qu'il va le payer contre Djokovic mardi?
Ah oui, là on ne peut pas dire le contraire. Depuis le début du tournoi, franchement, il est moins impressionnant que Novak Djokovic. Donc il part quand même avec un petit handicap. 5-7, il faut quand même les digérer, même quand on est Rafael Nadal. Ce qui était terrible dans ce match, c'était de voir son oncle partagé au milieu. Il s'était installé dans la tribune présidentielle à mi-chemin entre le clan Nadal et le clan Auger-Aliassime.
Mais parce que son oncle entraîne le Canadien.
Voilà, c'est ça exactement. Il a entraîné évidemment son neveu pendant des années et des années, pour ne pas dire des siècles. Et là, il était vraiment déchiré, Tony Nadal, l'oncle de Rafa. Et il me l'a dit à la fin du match, je suis allé le voir pour Europe 1. Et il m'a dit, ah non, j'étais quand même pour Rafa. Hein, la famille, c'est quand même le plus important. Vous voyez, il y a quand même des gens qui ont des valeurs. Il n'y a pas que l'argent qui prime dans ce monde du tennis.
Donc, avantage Djokovic pour mardi.
Oui, franchement, il a un petit avantage, voire un gros avantages. Il est très bien préparé. Il monte en puissance, Djokovic, depuis quelques semaines. Donc, il sera très certainement favori face à Rafael Nadal.
Quel accueil lui réserve d'ailleurs le public de la porte d'Auteuil, Djokovic, qui, a priori, n'est toujours pas vacciné contre le Covid. On en a beaucoup parlé au moment de l'Open d'Australie.
Alors, il est clairement moins populaire que Rafael Nadal. Ça, c'est impressionnant. Moi, je dirais que je suis un Nadal, vous le savez, il a gagné 13 fois Roland-Garros. Au début de sa carrière, il n'était pas très populaire aujourd'hui, mais il est adoré par le public. Hier soir, c'est encore ça chantait, ça criait Rafa, Rafa, ce qui devait être dur, et ça a sans doute joué aussi contre son adversaire. Et Djokovic est quand même beaucoup moins populaire. Ça a été toujours le cas depuis très longtemps.
Pour autant, l'ambiance n'est pas hostile.
Non, pas hostile. Non, il n'y a pas de sifflet. Il y a eu des sifflets contre une Française qui a abandonné, qui l'a d'ailleurs assez mal digéré.
Alizé Cornet, pour ne pas la citer.
Alizé Cornet. Et le reste, franchement, est assez positif. On ne peut pas dire qu'il y ait de l'hostilité, non.
Alors, autre sujet, Bruno Cuaz, et non des moindres, pour la deuxième année consécutive, il n'y a aucun bleu en deuxième semaine. Est-ce que ça vous étonne?
Bah non, pas du tout. Malheureusement, ça ne nous étonne pas. J'ai regardé, c'est un chiffre très simple. Vous regardez le classement mondial. Il n'y a pas de Française avant la 40e place mondiale. Donc voilà, c'est pas illogique qu'elle n'aille pas en deuxième semaine. On recite Alizé Cornet, qui est le leader du tennis féminin français. Et puis côté masculin, c'est pareil, il y a une sorte de régression, une vague descendante après toute cette belle génération qui est en train de s'en aller. On leur a dit adieu d'ailleurs la semaine dernière.
Ouais,
Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon. Il reste encore Richard Gasquet, Gaël Monfils. Gaël est blessé, donc n'a pas joué Roland-Garros. Donc tout ça fait qu'il faudrait qu'il y ait une relève et on ne la voit pas vraiment venir.
Ça devient inquiétant que ça devienne à ce point une habitude que pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de tricolore en deuxième semaine.
Oui, je parlais de vague. C'est vrai que c'est une vague descendante. Alors, il y a eu des phénomènes de haut et de bas. Le tennis américain, on ne peut pas dire ça au top actuellement. Donc, c'est vrai que c'est souvent assez général. Mais pour le tennis français, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur le tennis français, des techniciens. On arrive à former un petit peu comme en football une bonne armée de bons soldats. Mais il manque cette fameuse élite. Les petits joueurs qui vont pétiller, qui vont faire vibrer... Roland-Garros notamment.
Alors ce constat d'échec, en tout cas pour cette année, vaut aussi bien pour les garçons que pour les dames, même si Tout de même, elles nous ont peut-être davantage tenu en haleine. Je pense notamment aux bonnes performances de Léolia Jean-Jean et de Diane Paris qu'on a découvert.
Oui, oui, là c'est très étonnant. Alors, elles ont un profil vraiment totalement différent. Il y a que Diane Paris, elle est 100% un produit du système fédéral.
Elle n'a que 19 ans, c'est ça.
Voilà, elle a 19 ans, c'est une voisine, elle habite à Boulogne-Billancourt, à 200 mètres du stade. Et elle vient en voiture, je la dénonce ici. Et Léolia Jean-Jean, alors là, c'est totalement différent. Elle, elle était quasiment la meilleure mondiale lorsqu'elle avait 13-14 ans. Elle a eu de gros problèmes physiques. Elle a pas quitté le tennis, mais elle est partie aux États-Unis. Elle a étudié pendant 3 ans, notamment la sociologie, la criminologie. Donc, elle était loin du tennis. Elle était quand même en université aux États-Unis, donc elle a joué. Et puis là, elle est repartie, mais vraiment à zéro. Elle était 1200e mondiale il y a un an et demi.
Elle était au RSA il y a quelques mois.
Alors, elle était également au RSA. Bon, ça, on va dire que ce sont les bonnes choses du système français. Elle a été aidée légèrement. Mais là, elle a été impressionnante parce qu'elle a montré qu'elle avait toujours ce talent qu'elle avait lorsqu'elle avait 13 ans. Et elle, c'est un vrai potentiel, mais elle a 26 ans. Donc c'est vrai que c'est un parcours vraiment atypique. Peut-être va-t-elle continuer son chemin vers le sommet, pourquoi pas. Elle en a en tout cas pas mal de qualités.
Alors Léolia Jean-Jean était un phénomène en son temps. On parle d'un autre phénomène à présent, beaucoup, celui du jeune Espagnol Carlos Alcaraz.
C'est une autre dimension. Hein,
il est vraiment très fort.
Ah oui, oui, non, mais là, personnellement, et comme beaucoup d'observateurs, je n'ai jamais vu ça. Il a une maturité à 19 ans. Une marge de progression, c'est-à-dire que là il est quasiment au sommet, mais il semble encore il dégage une puissance, il est capable de jouer très très fort, très long. Je n'ai jamais vu un phénomène pareil à cet âge-là. Alors, va-t-il gagner Roland-Garros? Ça reste tout à fait possible, hein, même s'il a eu un match très difficile. On rappelle qu'il a sauvé une balle de match contre son compatriote Portas.
Mais il a étrié hier soir le russe Khachanov en 3-7.
Voilà. Alors là, évidemment, on attend, parce qu'il y a une partie de tableau totalement déséquilibrée, où il y a tous les gros bras, donc Djokovic, Nadal et Alcaraz. Partie basse, beaucoup plus faible. Donc, logiquement, on va avoir une demi-finale. Si on suit mon pronostic du matin, hein, mais bon, pardonnez-moi si je me suis trompé, on aura une demi-finale Djokovic-Alcaraz, et là, ça sera a priori quand même beaucoup plus serré.
Ouais. Donc, pour vous, le favori, c'est Djokovic chez les hommes.
Oui, on peut le dire.
Chez les dames?
Alors, chez les dames, là au moins, il n'y a aucune discussion. Il y a une fille qui est au-dessus du lot. Alors là, on peut la placer à l'époque au niveau de Steffi Graf. Elle est vraiment, vraiment impressionnante. Elle s'appelle Iga Świątek. Ce n'est pas le nom le plus facile à vendre.
Polonaise.
C'est une Polonaise. Elle a gagné Roland-Garros il y a 2 ans, hein, juste ça. Et depuis, elle a progressé, beaucoup progressé. Et puis alors là, paf, c'est le désert derrière elle. Il n'y a plus de joueuses. Elle a fait le vide. Donc, je ne vois pas comment Iga Świątek ne peut pas gagner le tournoi. Ça me serait vraiment étonnant.
Alors, je le disais en introduction, Bruno Cuaz, vous en êtes à votre 38e Roland-Garros. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai fait les calculs, votre premier Roland en tant que journaliste, c'était en 84. Donc, l'année après la victoire de Yannick Noah. Donc, depuis, plus aucun Français n'a soulevé la Coupe des Mousquetaires. Vous ne seriez pas un peu chanois?
Alors, effectivement, vous avez raison, je commence à me poser la question. Je suis arrivé juste après et j'ai pleuré pour vous dire comme je suis chat noir, parce qu'en 84, j'étais à fond pour un certain John McEnroe face à Ivan Lendl. John McEnroe menait 2-7-0 et il a réussi à perdre en 5-7. Il ne s'en est toujours pas remis d'ailleurs, même s'il fait l'idiot. Je peux vous dire qu'il l'a toujours en travers de la gorge, moi aussi. Et donc, effectivement, il y a cette histoire du chat noir. Oui, vous avez peut-être raison. Il faut que je m'arrête, c'est ça?
Non, non. Il faut aller jusqu'au 39e Roland-Garros, voire au 40. Merci beaucoup, Bruno Cuaz, de nous avoir partagé avec nous votre science de la terre battue sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Excellente journée à vous.
Merci, Julien.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Rendez-vous fixé à 11h au ministère des Sports, organisateur de la finale de la Ligue des Champions, police, autorités locales. Tous sont convoqués après le fiasco de la finale samedi au Stade de France. Hier soir, c'est lors du barrage Saint-Étienne-Auxerre que la situation a dégénéré. Au coup de sifflet final, les supporters ont envahi le terrain. Des fumigènes ont aussi été tirés. Bilan 14 blessés côté forces de l'ordre, 17 chez les supporters et 2 joueurs auxerrois touchés. Et puis jour de vérité pour Patrick Balkany, incarcéré depuis février à Fleury-Mérogis. L'ancien maire de Levallois saura aujourd'hui si le tribunal d'application des peines lui accorde une remise en liberté conditionnelle ou s'il décide de le maintenir en détention.
Votre partition pour conclure à présent, Omblin, et à l'image de Nirvana ou de Radiohead, le groupe The Cranberries symbolise le rock et la rage des années 90. À sa tête, une icône anticonformiste, androgyne et tourmentée, la chanteuse Dolores O'Riordan.
Une Irlandaise, Julien, élevée dans la religion catholique, qui a connu une enfance modeste et difficile. Dolores O'Riordan est dotée d'un timbre incroyable, cette voix qu'elle pousse pour dénoncer les ravages de la guerre civile en Irlande du Nord. On garde cette image d'elle en déesse ou martyr devant une croix recouverte de peinture dorée.
On ne s'en souvient pas forcément, mais les débuts des Cranberries étaient nettement plus mélodieux et mélancoliques.
Un registre plus pop et rock indépendant. L'histoire du groupe commence quand les frères Mike et Noël Hogan fondent le groupe de Cranberries So Us, une référence à l'une des baies qui pousse dans le comté de Limerick, leur terre d'origine, la Canneberge. À la recherche d'une voix féminine, ils auditionnent Dolores O'Riordan. Elle intègre la bande de garçons immédiatement.
Et la chanteuse impose tout de suite sa personnalité et participe à l'écriture de la première cassette démo.
Le groupe est rebaptisé de Cranberries tout court. Le premier album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We sort en 1993.
Ce premier album est plutôt consensuel, il ne fait pas de vagues, mais les ventes décollent.
Oui, grâce notamment à MTV qui passe en boucle la balade Linger. On en a déjà parlé ici à plusieurs reprises. La chaîne de télé américaine en cette première moitié de la décennie 90 est puissante, omniprésente, fortement influente sur les tendances. MTV, c'est la référence.
Et le groupe fait entendre sa musique des deux côtés de l'Atlantique, mais c'est surtout la personnalité de Dolores O'Riordan qui fait parler des Cranberries.
Il n'est pas question pour elle de dissimuler ses opinions politiques et religieuses. Une catholique traditionnaliste, hostile à l'avortement, ouvertement contre l'occupation du nord de l'Irlande par les troupes britanniques.
Ces prises de position, les prises de Dolores O'Riordan sont souvent contestées, pourtant elles n'entachent en rien la popularité du groupe.
Oui, son charisme et l'émotion que sa voix dégage l'emportent. Le groupe passe beaucoup de temps sur les routes, enchaîne les concerts et surprend tout le monde en sortant un nouvel album à peine un an après le premier. La qualité et l'intensité de No Need to Argue font des Cranberries l'une des formations les plus populaires du rock international. To My Family par The Cranberries en 1994, extrait de l'album No Need to Argue. Depuis vendredi, retrouvez la compilation Stars, The Best of 1992-2002, qui était sortie il y a 20 ans en CD et qui est désormais disponible en format vinyle. L'album regroupe tous les singles des Cranberries par ordre chronologique, ainsi que deux inédits.
Merci beaucoup, Omblin. Et je précise que Dolores O'Riordan est décédée en 2018, c'est ça?
Oui, en janvier. Ouais.
Merci à vous. La matinée se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h27, excellente matinée.
Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.